I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour toutes les semaines. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés un homme ou une femme qui vient nous partager ses ondes positives pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, un peu moins maintenant, 28 minutes. L'invité nous permet de nous dire un peu ce qui lui a donné l'envie de s'engager, l'envie d'avancer, l'envie de partir. Alors figurez-vous qu'il est né il a grandi à Domrémy, c'est pas Jeanne d'Arc, pour autant, bien sûr, il a entrepris, il est allé de l'avant, il a voyagé. Madame, mesdemoiselles, messieurs, mon invité, c'est François Piau.
So good, so good, I got you.
Ultra trop facile cette remarque avec Domrémy. Pour autant, Domrémy, c'est un peu là où tout a commencé quand même.
Bonjour Christophe.
Bonjour François.
Alors tout à fait, je suis né à Neufchâteau et j'ai grandi à Domrémy, à l'ombre de la basilique Sainte-Jeanne d'Arc. Et toute ma jeunesse, j'ai entendu les voix de Jeanne d'Arc près de la fontaine des Fiévreux.
Un repère, Jeanne d'Arc, ça laisse une trace quand même
Alors oui, la première trace que ça laisse, c'est que c'est toujours compliqué de donner son adresse en disant qu'on habite à Domrémy, la Pucelle.
Ouais. Donc ça c'est vrai. Hein, où habitez-vous, oui, c'est vrai. Ah, l'école, tout ça, ouais.
Oui.
Ah, dans le coin quand même, on a l'habitude.
Dans le coin, ça va.
C'est après.
Oui.
Quand on fait les études à Paris.
Les études à Paris, donc le bac à Neufchâteau. J'ai adoré mon collège et mon lycée à Neufchâteau. Et puis après, je suis parti en classe prépa en région parisienne. J'ai fait une école d'ingénieur dans la banlieue de Paris. J'ai démarré une thèse à l'Institut Curie en biologie moléculaire. Et puis, brutalement, j'ai arrêté ma thèse et pris la décision de rejoindre mon père dans l'entreprise familiale.
Alors, deux secondes et deux mots sur l'entreprise familiale. Prête à partir. Piau. Le groupe Piau, enfin voilà, je ne sais pas comment l'appeler, prêt à partir en tout cas, assurément.
Voilà, prêt à partir,
voilà,
très bien.
Voilà. Créé quand et avec qui et pourquoi?
Alors, l'histoire démarre juste après la guerre. C'est mes grands-parents et surtout ma grand-mère, Rose, qui ont commencé par un commerce multiservice dans la rue principale, la seule rue d'ailleurs de Domrémy.
Près de l'église là
En bas, oui, ouais. Oui, en face du marchand de primeurs qui était... Ouais. Qui était son frère, je crois, Abel Kulminic. Et donc c'était en 1948. Mon grand-père, lui, avait fait la guerre comme sous-marinier. Et donc ils avaient ouvert un commerce multiservice où ils faisaient à la fois donc, station essence, garage pour automobile et salon de coiffure.
Une diversité.
Déjà.
On va en reparler, effectivement.
Et ma grand-mère, elle venait d'Europe centrale, d'Hongrie ou de Roumanie, on ne sait pas très bien. Et elle était née dans une roulotte, c'était la dernière de 11 enfants, en 1912, je crois.
D'accord.
1910.
Déjà, une diversité, des origines...
Du voyage. Des gens du voyage, déjà, en effet.
Ouais.
On venait de loin, puis on n'était pas prêt de s'arrêter. Mon père, lui, est arrivé dans l'entreprise après son service militaire en 1965.
Donc l'entreprise était toujours à Domrémy, toujours ce profil d'activité?
C'était toujours à Domrémy à l'époque, c'était les Carachilles Piau de Domrémy la Pucelle. Ouais. C'était marqué comme ça, oui, c'est pas facile à dire non plus.
Ah non plus, hein.
Et mon père a déménagé, je ne sais plus à quelle date, pendant au début des années 70, à Neufchâteau, où nous sommes toujours d'ailleurs. Neufchâteau, et ça, bon, c'est important pour mon père et c'est important aussi pour moi, même si le siège est à côté de Nancy, à Gondreville, le siège social de l'entreprise est toujours à Neufchâteau,
oui,
dans les Vosges.
Ah, le siège social est toujours à Neufchâteau, d'accord. 5 autocars, c'est ça?
À l'époque, oui, 5 autocars, oui, et ouais. Pas d'agence de voyage.
Ouais.
La première agence à Neufchâteau a dû ouvrir un peu après, c'était...
Autocariste alors au départ?
Oui, autocariste, oui, et plus du tourisme, a priori. À l'époque, les gens commençaient à voyager. J'ai toujours une vieille anecdote qu'on m'a racontée, où, où un jour, lors d'un voyage à Venise, c'est mon grand-père qui conduisait, et à l'époque, il n'y avait pas les autoroutes, hein, c'était dans les années 60, et dans un col, quand il traversait les Alpes, à un moment donné, il s'est fait doubler par sa roue.
Ah. Vous voyez,
c'était des choses qui arrivaient à ce moment-là.
On s'arrête.
On s'arrête, oui, enfin, on rattrape la roue, et après, on la recolle. Mais...
Aujourd'hui, prêt à partir ?
Alors aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une ETI, comme on dit, une entreprise de taille intermédiaire avec environ 1500 collaborateurs qui sont répartis sur nos deux métiers principaux que sont l'agence de voyage et le transport. Donc c'est environ 250 agents de voyage et puis donc un peu plus de 1000 conducteurs, sachant qu'on a beaucoup de conducteurs à temps partiel puisque notre métier de base sur le transport, c'est pas le seul métier, mais c'est notre métier de base, c'est d'emmener les enfants à l'école. Donc on roule un peu le matin et un peu le soir.
Un peu sur la trace des grands-parents, François Piau, c'est aussi un investisseur multicarte aussi, qui a plusieurs projets entrepreneuriaux.
Alors moi je suis quelqu'un de curieux et je fonctionne beaucoup aux rencontres. Disons que j'ai pas une stratégie, une ambition de développement, je suis pas un homme d'argent ni de pouvoir. Et je fonctionne aux intuitions et aux rencontres que je fais. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien apprendre plein de choses. Et je trouve que le meilleur moyen de connaître un sujet, bah, c'est de s'investir dans ce sujet, tant par le temps que par l'argent. Ce qui fait que j'ai été amené à diversifier nos métiers. Et dans les deux diversifications importantes qui restent aujourd'hui, c'est d'une part les énergies renouvelables, à partir de 2007, où j'ai fait une très belle rencontre avec un ancien banquier qui m'a un peu roulé, mais qui m'a permis de découvrir les panneaux solaires. Je suis tombé dans le panneau grâce à lui. Et aujourd'hui, c'est un vrai métier chez nous de production d'électricité renouvelable à partir de panneaux solaires, de centrales hydroélectriques, d'une centrale de méthanisation, avec un groupe de paysans de Meurthe-et-Moselle. Et puis, aussi grâce à ce banquier qui m'a escroqué, j'ai fait la connaissance de deux jeunes financiers qui m'ont proposé d'investir dans les startups. Et moi, j'y voyais le moyen, à l'époque, on était en 2013, le moyen de réaliser une veille technologique de façon originale et d'investir dans des startups en lien avec mes métiers, qui étaient la mobilité, les loisirs et l'environnement. Ce qui a été aussi l'origine d'une belle histoire, où aujourd'hui, nous avons, je finance un fonds à 100% qui a une trentaine de participations dans des startups différentes en lien avec nos métiers.
Quand on vous entend, François, on s'en rend le chef d'entreprise, le business angel, là aussi, on sent... Et derrière, il y a toute l'humanité qu'on ne perçoit pas tout de suite.
Alors, je déteste le terme de business angel.
Ah d'accord, alors oui, j'ai vu qu'il y a eu un... Voilà, pourquoi, allez, explication sur business angel qui répond à ma question, s'il vous plaît.
Déjà parce que je ne fais pas ça pour l'argent. Ouais. Parce que si je faisais ça pour l'argent...
Ah bah, ça commence à répondre à ma question, voilà. En fait.
Si je faisais ça uniquement pour l'argent, si je faisais ça tout court pour l'argent, je me placerais à la banque et je prendrais beaucoup moins de risques. Parce que ça va faire 12 ans que je suis investi dans l'accompagnement des startups. Financièrement, c'est pour l'instant, j'ai pas gagné d'argent et je pense que je n'en gagnerai pas.
D'accord.
En revanche, j'ai beaucoup appris. C'est Nelson Mandela qui disait, moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans les startups, pour l'instant, j'apprends. Et ce que j'aime, moi, c'est apprendre. Après, si on peut faire les deux, c'est encore mieux, c'est sûr. Et à un moment donné, il faut évidemment qu'une entreprise gagne de l'argent pour continuer de pouvoir financer ses rêves. Finalement, c'est une belle histoire qu'on écrit, ou une histoire tout court. Et cette histoire, moi, j'aime l'écrire avec mes collaborateurs. C'est pour moi, c'est un livre qu'on écrit page après page, dont on ne connaît pas la fin, dont on connaît vaguement le début. Et puis, donc moi, j'écris quelques chapitres. Je suis passé après ceux d'avant et je suis avant ceux d'après.
Parmi ces chapitres, il y en a un important qui constitue une date importante dans votre vie, c'est le 17 mars 2020.
17 mars 2020, le début du premier confinement qui chez nous a été assez bouleversant puisque, surtout sur la partie voyage, on a dû fermer nos agences.
Tout
complètement.
S'arrête. Tout s'arrête.
Tout s'arrête. Je me souviens, j'étais à Gondreville, j'ai fermé le bâtiment, je suis rentré chez moi, j'ai été contrôlé par la maréchaussée vers 16h en arrivant en haut de l'Axou, et je suis rentré chez moi en me disant, bon, ça, avec un petit pincement au cœur quand même, hein, c'est, en se disant, c'est quand même la première fois qu'on fermait boutique et qu'on demandait aux gens de rentrer chez eux.
Tout s'arrête chez vous.
Tout s'arrête. Un jour de voyage. Interdiction d'ouvrir, interdiction de rester au bureau, que ce soit c'est le transport, l'agence et les gens du siège.
Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là dans la tête du chef d'entreprise ?
Alors, la première chose que je veux faire, c'est rassurer mes équipes. Donc déjà, je leur dis que, et j'y crois en plus à ce moment-là, je leur dis, vous inquiétez pas, ça va durer 6 voire 9 semaines, et après, on reprend une activité normale. Donc l'histoire ne m'a pas tout à fait donné raison.
Merci.
On a vécu 2 années avec 70% de chiffre d'affaires en moins, puisque en 2020 et 2021, ça a été quand même plutôt compliqué de voyager. Mais bon, on avait quand même la chance d'être à côté du Luxembourg, et comme les avions de la Luxair volaient assez régulièrement, on a quand même pu faire partir quelques clients. Bon, néanmoins, ça a été super long parce que du jour au lendemain, tout s'arrêtait. Et que nos équipes commençaient à douter. Alors, elles adoraient la boîte, elles aimaient beaucoup leur patron, elles savaient qu'on avait les moyens de survivre. Je les ai tout de suite rassurées là-dessus, j'ai garanti les salaires à 100%, donc un complément par rapport au chômage partiel, puisque tout le monde était en chômage partiel. Je les ai rassurées sur l'avenir, sur notre capacité à survivre cette crise, quelle qu'en soit la durée. Bon, je ne pensais pas que ça durerait 2 ans quand même. Mais il y a quand même eu la question du sens qui s'est posée. C'est-à-dire que j'avais, parmi mes collaborateurs, comme dans beaucoup d'autres métiers, dans beaucoup d'autres entreprises, des gens qui se levaient le matin en se demandant « Bah tiens, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie ?» Et qui, brutalement, envoyaient tout promener. J'ai une anecdote là-dessus, j'ai une vieille copine de Neufchâteau, du lycée, qui m'a recontacté, dont j'avais pas eu de nouvelles pendant 30 ans, et on s'est recontacté via Facebook. Donc on a pris des nouvelles, les enfants, etc. Qu'est-ce que t'es devenue ? Je savais qu'elle était pharmacienne, qu'elle avait migré dans le sud de la France. Et elle m'a dit qu'elle, avec le Covid, donc elle avait tout envoyé balader. Le boulot, le mari, les enfants. Et elle était partie élever des porcs laineux en Corrèze avec son prof de boxe. Bon, je me suis dit, mais en fait les gens deviennent fous. Mais non. Donc, il se pose la question du sens, et puis c'est Confucius qui disait que on a que 2 vies, et la deuxième commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. Donc c'est ça qui s'est passé. Nous, on a perdu 1/3 de nos effectifs en agence, alors que franchement, on passait beaucoup de temps avec les équipes. Moi, la deuxième décision que j'ai prise, le 17 mars 2020, c'était de me dire il faut garder le lien. Ce lien, il est essentiel, et avec le confinement, on a un risque de le perdre. Donc, dès le mercredi, le 18 mars, j'ai commencé à écrire à mes équipes. Mon premier texte, il était assez court, c'était de dire, bah, écoutez, voilà, le Premier ministre a ordonné qu'on reste chez soi, donc restez chez vous. C'est votre santé qui en dépend, c'est la santé de vos parents et de tous les compatriotes. Et puis en même temps, je voulais les rassurer. Donc, j'ai commencé à prendre de leurs nouvelles et puis à leur parler de l'entreprise, de son histoire, un peu pour passer le temps. Donc le jeudi, j'envoyais déjà un deuxième texte, un peu plus long, pour parler des origines de l'entreprise, de ma grand-mère. Et puis le vendredi, un troisième texte. Parce que on a un réseau social d'entreprise qui ressemble à un Facebook, qui s'appelle Workplace, qui est un produit d'ailleurs délivré par Facebook, mais où le contenu est privé et nous appartient, et confidentiel. Donc on pouvait comme ça continuer librement à échanger, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Et puis même le chef d'entreprise, dans sa cave, il se sentait un peu seul, quoi. Donc j'ai commencé à envoyer des textes qui étaient relativement longs, ça faisait une page et demie, à peu près 800 mots, tous les jours, y compris le dimanche. Et ça, ça a duré près de 2 ans tous les jours. Donc j'ai écrit l'équivalent de 7 gros romans. Je suis devenu un patron écrivain, en fait. Je n'avais plus rien à faire, donc patron écrivain, où j'ai tout raconté à mes équipes. Je me suis livré, alors toujours professionnel, comme je dis en interne, du lundi au samedi, c'est le patron qui s'adresse à ses collaborateurs, et le dimanche, je me lâche un peu plus. Là, c'est plus le serviteur. Le berger du lundi au samedi et le serviteur le dimanche. Où là, je parle plus aux âmes qu'aux collaborateurs.
203e dimanche du temps extraordinaire. Je vous invite à lire la dernière rubrique chronique de François Piau, le dimanche, justement. Extraordinaire appel à la paix. En même temps, François, c'est le moment d'une pause musicale. Maxime Le Forestier, racontez-nous ce choix de Maxime Le Forestier.
Quand j'étais petit, je me sentais un peu seul. Alors, non seulement mes parents habitaient Doremy-la-Pucelle, mais ils habitaient en dehors du village, à côté de la basilique. Donc, j'étais loin de tout. Donc, j'ai beaucoup insisté pour avoir un frère ou une sœur. Caprice auquel mes parents ont répondu. Et donc, quelques mois plus tard, est arrivé mon frère, mais il était un peu cassé. En fait, mon frère, qui s'appelle Clément, qui a 9 ans de moins que moi, est trisomique. Et même si on a passé plein de bons moments quand on était gamins, tous les deux à Doremy, à partir du moment où j'ai quitté la maison pour aller faire mes études, quand je suis revenu, bah, c'était devenu un adulte et la communication n'était plus tout à fait la même. Donc, il arrive encore qu'on passe de très bons moments ensemble. Parfois, il arrive qu'il gagne aux dames, mais c'est un peu le frère que je n'ai jamais eu.
Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Il n'est pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés de filles et les coups de matraque. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant. T'es dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
Maxime Le Forestier, véritable déclaration d'amour.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Merci François.
Merci Christophe.
Pas facile hein, ce partage quand même.
C'est lourd d'émotions. Et à chaque fois, c'est sûr que c'est un peu les larmes qui montent aux yeux. Et quand j'entends les dernières phrases de la chanson, on se fabrique une famille, ça m'évoque autre chose. C'est que chez nous, chez Prêt à Partir, on parle de l'entreprise comme d'une deuxième famille, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Alors, c'est pas le cas de 100% des collaborateurs, mais il y a un attachement tel que pour beaucoup d'entre nous, l'entreprise, en particulier avec ce passage Covid, est devenue une deuxième famille.
Tu vas trop vite, François, sur rembrayer sur le groupe Pew, Prêt à Partir. On va revenir.
Désolé.
Non, pas désolé, mais c'est une famille, un frère handicapé. Comment on vit la famille, comment on vit la fraternité, justement, avec un frère handicapé qui ne comprend pas forcément de la même façon.
Bah, comme je n'ai jamais connu autre chose, j'ai envie de dire, on vit avec. On vit avec, et puis... Quand on est gamin, c'est sûr qu'on vit les choses avec moins de gravité que quand on est adulte. À l'époque, moi je jouais avec mon frère et on a passé des heures formidables ensemble. Aujourd'hui, c'est plus une inquiétude parce que j'ai moi-même ma famille, ma femme, mes enfants. Aujourd'hui, je vais voir de temps en temps mes parents et mon frère, mais c'est... À un moment donné, tout change. Et le jour où mes parents disparaissent, qu'est-ce que tout ça devient ?
Et cette interrogation-là, aujourd'hui, qui fait un peu mal ?
Bon, c'est plus une inquiétude, savoir comment tout gérer pour que les gens autour de moi soient heureux, à la fois la famille, la deuxième famille, l'entreprise, mon frère, qui lui a ses habitudes chez mes parents, et qui les voit baisser, et qui ne peut pas imaginer une autre existence.
Cet élan de cette attention à l'homme dans et à la femme dans toutes ces dimensions, y compris dans l'aspect entrepreneurial, ça t'a toujours guidé?
Je pense que oui. C'est ça que je me suis jamais trop posé la question. J'ai toujours eu un profond respect pour la nature humaine et au sens large pour la vie. Pour la vie, parce qu'on a pris la décision chez nous il y a quelques mois de faire de la défense de la cause animale un grand sujet pour nos agents de voyage. C'est-à-dire je vais te donner l'exemple très personnel que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, où j'ai eu la chance de participer à un voyage à l'île Maurice, et il était possible d'aller nager avec les dauphins pendant ce voyage, ce qui pour moi était un rêve de gosse. Donc j'ai absolument voulu participer à cette excursion. Et puis arrivé sur place, on a vu un troupeau de dauphins qui était entouré et martyrisé par 20 ou 30 bateaux de touristes comme moi qui voulaient les voir. Alors je suis pas meilleur que les autres, hein. J'ai plongé, j'ai essayé de m'approcher d'eux, de nager avec eux, mais je me suis dit plus jamais ça. Donc oui, moi j'ai besoin faire mon métier, de trouver du sens dans ce métier et de le faire en cohérence avec mes valeurs.
Alors tes valeurs, elles se construisent, elles se vivent aussi dans une première date importante dans ta vie, c'est le 24 octobre 98.
24 octobre 98, c'est le jour de mon mariage, en grande pompe, hein, comme papa l'avait voulu, à la basilique de Dorémy et ensuite... au château d'Arroué.
Il y avait un côté Pio quand même, un grand nom. Voilà, c'est un peu ça, non?
Oui, en fait, nous, c'est passé très très vite avec mon épouse Christine. On ne connaissait pas beaucoup, pas beaucoup les invités finalement. C'était surtout la soirée de papa et maman. Mais c'était super, c'est sûr que c'était quelques jours avant qu'on démarre dans l'entreprise. En plus, ça, c'est un grand souvenir.
Donc Christine et François.
Oui.
Mariés pour la vie, là. Pour la vie aussi entrepreneuriale.
Oui, exactement. Mon épouse travaille comme contrôleur de gestion à mes côtés. Et je ne saurais jamais assez la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi.
C'est vrai, on la connaît pas. On la voit François.
Elle est très timide. Voilà, très timide. Moi, je suis le cabotin.
D'accord. La famille s'agrandit, et entrepreneuriale et familiale.
Six femmes à la maison, 5 filles donc, mais qui commencent à quitter le nid. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc oui, je suis quelqu'un d'assez occupé. J'adore être occupé. Le fait de l'ennui, c'est pour moi le ça me terrorise.
Et enfin, on arrive à la troisième date. On les a pas du tout fait dans le bon ordre, mais c'était l'ordre de la narration qui comptait aujourd'hui. C'est le 19 mai 2021. C'est la fin du chômage partiel. C'est ce que tu nous as raconté en écho à cette première date importante, 17 mars 2020. Fin du chômage partiel. Qu'est-ce qui se passe là?
Alors c'est une décision importante que j'ai prise, qui était de permettre à nos collaborateurs de retourner dans les agences de voyage sur des horaires normaux. Donc là, en effet, comme tu disais, la fin du chômage partiel, de façon à pouvoir reprendre un début de vie normale, parce qu'en 2021, c'est encore compliqué de voyager. Dans beaucoup de pays, les frontières sont toujours fermées. Mais voilà, l'idée, c'était que plutôt que de rester chez soi, payé par le chômage partiel, à se demander s'il valait mieux pas changer de métier, bah, c'était retourner au travail, retrouver nos clients physiquement. Même s'il y a eu des périodes d'interruption, d'ouverture, mais beaucoup de fermetures administratives entre mars 2020 et mai 2021. Et puis, ça c'est l'ironie du sort, hein, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, que le 19 mai 2021, c'était que du bonheur de rouvrir nos agences, de se dire, ça y est, ça repart comme avant. Mais le lendemain, donc, on avait une mauvaise nouvelle côté transport, puisqu'on apprenait qu'on perdait tous les circuits scolaires qu'on avait dans les Vosges et une bonne partie de ceux de la Meuse. Et donc, y compris ceux que mon père exploitait depuis quasiment 60 ans.
Historique.
Ouais. Donc, 24 heures de répit, en fait.
En même temps, et on se dirige vers la fin de l'émission, François Piau, sur les réseaux sociaux, hormis ce marché, effectivement, mais François Piau, sur les réseaux sociaux, c'est toujours des raisons d'espérer, c'est toujours des raisons d'aller de l'avant. C'est une posture marketing?
Non. Dans les textes que j'écris et que je poste, c'est vraiment moi. Il n'y a pas de volonté marketing. Alors il peut y avoir un petit peu de cabotage de l'écrivain.
Ce qui ne nuit pas, c'est une formule de style.
Ouais, mais déjà, je prends un vrai plaisir à écrire. Ça faisait partie des choses que je voulais faire quand j'étais gamin. Et je prends aussi encore plus de plaisir à me livrer tel que je suis.
Je vous invite à lire la 203e, à lire la nouvelle rubrique à l'occasion du 203e dimanche du temps extraordinaire. C'est un appel à la paix, à la sérénité, un peu à la fraternité. Merci François d'avoir pris le temps de t'arrêter à RCN.
Merci, Gustave.